Bonjour Alain.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Avec le micro, c'est mieux. Vous nous parlez des doryphores ce matin, ce sont des sacrés insectes gloutons.
Oh là oui, ils se délectent des tomates et aubergines, mais surtout des pommes de terre. Et les dégâts peuvent être énormes. Leur présence est d'autant plus fâcheuse qu'ils sont toujours des centaines, voire davantage, à investir le jardin. Pour vous donner une idée, Karine, de ce qui vous attend si vous ne réagissez pas très vite, sachez qu'une femelle est capable de pondre sa vie durant 2500 œufs.
Ah oui.
Et quand on sait que les larves, elles aussi redoutables, apparaissent au bout de seulement 8 des jours, il y a vraiment, mais vraiment, de quoi être inquiet.
Alors dites-nous à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'ils se déplacent?
Ils se déplacent par les airs avec leurs ailes et l'aide du vent. Ils peuvent ainsi parcourir des centaines de kilomètres. Les doryphores ont une taille d'environ 10 mm et on les reconnaît facilement avec sur leur dos des rayures jaunes.
Alors c'est très difficile de s'en débarrasser parce que je me souviens de mon grand-père qui râlait systématiquement après les doryphores.
Oui, mais les grands-pères, rappelez-vous, c'était la guerre et ils n'avaient que les pommes de terre pour se nourrir. Heureusement, tout a changé. Eh bien non, aujourd'hui, on connaît quelques techniques et sans aucun produit, comme faisaient justement les paysans sur l'île d'Oléron en particulier. Le soir, ils disposaient des lampes tempêtes entre les rangs de pommes de terre et les bestioles, attirées par la lumière, se retrouvaient prisonniers dans la boîte. Il suffisait ensuite le matin, c'était les enfants d'ailleurs qui le faisaient, de les ramasser au lever du jour et de les jeter dans un seau d'eau pour qu'ils se noient et on n'en parlait plus. Alors, autre conseil très important, les doryphores, sachez-le, passent l'hiver sous la terre. Alors, pratiquer la rotation des cultures pour éviter de planter les pommes de terre là où ils attendent.
Ah oui, évidemment.
Eh ben oui.
Allez Alain, je vous soumets toutes les questions de nos auditeurs. Elles sont comme toujours très nombreuses. Chantal, j'ai un arbre de jade, vieux de 25 ans, que je rentre chaque hiver, mais il est resté à l'intérieur depuis l'hiver 2020. Car nous avons eu des travaux de façade. Je l'ai mis dehors et j'ai vu apparaître sur chaque feuille une tache brune. Est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, l'arbre de jade, c'est une très belle plante succulente originaire d'Afrique du Sud. C'est une plante, on dirait un bonsaï en fait. Elle a des feuilles très épaisses, rondes, petites. Et c'est une plante qui ressemble
fragile.
Vraiment... Fragile? C'est assez fragile. Attention, c'est une plante d'intérieur. Elle redoute le gel. Le gel, elle ne résistera pas. Donc notre ami a fort bien fait de la protéger.
D'accord.
Et là, elle l'a donc ressortie. Pourquoi pas, même si la plante est quand même quelque peu délicate. Et le problème de la petite tache brune, c'est certainement, quand je dis certainement, j'affirme, excès d'eau. Cette plante déteste l'excès d'eau. C'est pour ça qu'elle a des feuilles épaisses.
C'est compliqué ça, savoir la quantité d'eau qu'il faut mettre à un arbre.
Enfin, non, pour le crassula par exemple, il suffit avant de remettre de l'eau, d'attendre que la terre sèche. C'est pas compliqué. Vous mettez de l'eau, vous arrosez normalement sans excès tous les 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, vous grattez un petit peu le premier centimètre de terre. Et si là c'est sec, vous pouvez en rajouter quelque peu.
Alors Nicolas s'interroge sur son magnifique cerisier qui donne chaque année en abondance de très beaux fruits. Il n'a jamais été taillé en hauteur, ce cerisier. Il nous semble que les fruits, nous écrit-il, rapetissent d'année en année. Est-ce que l'absence de taille peut en être la cause?
Réponse en deux temps. Le cerisier déteste la taille. Alors ça, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire mourir un cerisier, vous le taillez de manière trop drastique. Vous verrez les conséquences. Quand on coupe trop fort un cerisier, il produit de la gomme ou gommose. C'est une sorte de résine de couleur qui épuise les végétales et qui peut affecter gravement la fructification. Là, il s'avère tout simplement que le végétal est en souffrance. Il y a peut-être une carence dans la terre et la plante n'arrive pas à puiser les oligos, éléments nécessaires à sa bonne alimentation pour faire de bonnes cerises. Mais de toute façon, soyons objectifs. Qu'importe la qualité ou la grosseur des cerises, quand généralement elles sont prêtes à être mangées, les oiseaux arrivent. Donc, finalement, c'est pas un drame. Bah oui.
Mais quand même, en vieillissant un arbre, globalement, ces arbres fruitiers, leurs fruits rapetissent?
Pas du
pas
tout.
Non.
Parce que pour une raison simple, c'est qu'en vieillissant, surtout quand l'arbre se sent partir, se sent mourir, il a même tendance à augmenter la fructification pour assurer une descendance avant de partir rejoindre le paradis des arbres.
Oh, c'est intéressant,
donc là,
ça.
Il n'y a pas, non, ce n'est pas du tout lié au vieillissement du végétal. Il peut moins fructifier, c'est sûr, mais les fruits ne sont pas liés à l'âge.
Alors, on m'a donné deux lauriers roses, nous écrit Pierre, qui ont subi, un, la voracité d'un chien et deux, le gel. Je les ai replantés au printemps 2021, donc l'année dernière, et mis un voile d'hivernage. Ils en sont sortis avec les feuilles super sèches. Faut-il les tailler maintenant ou à l'automne?
Alors déjà, le premier conseil, ne confiez pas vos plantes à Pierre, parce que, alors, soit il ne les arrose pas, car c'est la cause principale du dépérissement du laurier rose, soit son chien ravage le végétal, soit c'est le gel qui arrive.
Disons que quand on met un voile d'hivernage, il faut accepter de continuer à arroser.
Oui,
que ça, en fait.
Le voile d'hivernage, c'est uniquement s'il gèle et puis on le retire dès que les températures clémentes sont revenues. Donc que faire là? On va tenter l'opération de sauvetage. On rabat toutes les feuilles, enfin toutes les branches, à 30-40 cm de la souche. C'est la seule méthode pour tenter de sauver cette plante. Mais attention, une plante est un être vivant. Un chien qui va manger l'écorce, qui va manger les tiges, va porter gravement atteinte au végétal. Ce sont des êtres fragiles, donc beaucoup, beaucoup de prudence. Dans ce cas précis, on réarrose normalement, on rabat à 30, 40, 50 cm de la souche, et puis on prie.
D'accord.
Eh ben oui, eh ben oui.
Est-ce que vous avez une petite balade à nous suggérer, Alain Baraton ?
Très rapidement, ouais. Les journées des plantes d'Albertas, c'est à Bouc-Bel-Air, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est la grande manifestation du sud de la France où vous pouvez rencontrer 150 pépiniéristes et artisans du jardin.
C'est quand même impressionnant.
Eh oui, donc ce sont les journées des plantes d'Albertas dans les Bouches-du-Rhône. Et puis je sais que vous adorez les chapeaux.
C'est vrai.
Eh ben oui. C'est le château.
Vous m'épatez toujours.
Ben oui, c'est le château de Cheverny qui organise le festival du chapeau. Aujourd'hui, avec quantité de défilés de jolies dames, je crois même qu'il y a quelques Miss France. C'est dans le Loir-et-Cher, Cheverny.
Merci Alain Baraton, belle journée.